أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد. Toutes les louanges vont à Allah, mes frères, mes sœurs. Toutes les louanges vont à Allah, Allah le Seigneur des mondes. Allah est l'unique, sans associé. Allah est le puissant. Allah est celui qui pardonne. Nous remercions Allah, nous le louons, d'une louange renouvelée matin et soir. Et nous remercions le Très-Haut pour tous ses bienfaits. Et nous lui demandons de nous combler d'encore plus de ses faveurs. J'atteste et nous attestons tous qu'il n'y a de divinité que Allah, l'unique sans associé. Allah est celui qui connaît le visible et l'invisible. Et j'atteste que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé et son serviteur. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a transmis clairement le message et il a accompli la mission que son Seigneur le Très-Haut lui a confiée. Que les prières et le salut d'Allah soient sur le prophète Mohammed, sur sa famille, sur ses compagnons, ainsi que tous ceux qui les ont suivis dans le bien jusqu'au jour dernier. Mes très chères sœurs, mes très chers frères, redoutez Allah le Très-Haut. Adorez-le comme il le mérite. Rappelez-vous en permanence de ses bienfaits et soyez reconnaissants. Rappelez-vous également de la manière avec laquelle vous êtes apparus sur la terre et comment vous en disparaîtrez. Vous découvrirez alors les marques, les traces de votre Seigneur ainsi que sa grandeur. Allah a créé notre père Adam alayhi salam à partir d'argile. Et ensuite, il a créé sa descendance à partir d'un liquide, à partir d'un liquide impur. Il a placé les hommes dans les ventres de leur mère et il leur a insufflé leur âme. Et dans le ventre de sa mère, l'embryon évolue. Pendant 40 jours, il est une substance liquide, un nutfa. Puis pendant 40 jours, il est une adhérence, un caillot de sang, al-alaqa. Puis pendant 40 jours, il ressemble à une substance mâchée, al-mudra. Cette période couvre 120 jours, c'est-à-dire 4 mois complets. Après ces 4 mois complets, Allah envoie un ange qui insuffle l'esprit dans ce corps. Cet ange est aussi chargé d'écrire ses biens futurs, c'est-à-dire ses moyens de subsistance. Il est chargé également d'écrire la durée de la vie de cet homme, ses œuvres, son destin, qu'il soit heureux ou malheureux. Il reste dans le ventre de sa mère le temps que Allah a voulu qu'il y reste. Puis Allah le fait naître dans ce bas monde et il y demeure le temps que Allah a décrété qu'il y demeure. Il ne peut ni avancer son départ ni le retarder. Puis il quitte cette vie qui est l'endroit du travail pour l'au-delà, qui est l'endroit des récompenses pour le travail accompli. Et lorsqu'il meurt, lorsque l'homme meurt, ses œuvres terrestres sont toutes bloquées, sauf les trois suivantes. Une aumône permanente, une science utile ou un enfant pieux qui invoque Allah pour lui. L'homme reste alors dans le monde de la tombe, al-barzakh, jusqu'au jour dernier. Et ce mot, al-barzakh, exprime la période qui va de la mort de la période, de la personne, de la mort de la personne, jusqu'au jour du jugement dernier. Le jour du jugement dernier, les gens se lèveront tous de leur tombe pour le Seigneur des mondes, le corps nu de tout vêtement, les pieds déchaussés et le regard hagard. Allah décrit certaines personnes ce jour-là dans le Coran en disant « Les regards baissés, ils sortiront des tombes comme des sauterelles éparpillées, courant le cou tendu vers celui qui les appelle. Les non-croyants diront ce jour-là « Voilà un jour bien pénible ». Et Allah dit encore à propos du jour du jugement dernier, le jour où l'homme s'enfuira de son frère, de sa mère, de son père, de sa compagne et de ses enfants. Car chacun d'eux, ce jour-là, aura son propre cas pour l'occuper. Et dans un autre verset, Allah nous dit, « Puis, quand on soufflera dans la trompe, il n'y aura plus de lien de parenté entre eux ce jour-là, et ils ne se poseront plus de questions. » Mon frère, ma sœur, lorsque tu passes de ce bas monde à l'au-delà, tu veux te retrouver dans l'une des trois situations suivantes qui sont décrites par Allah dans le Coran. Allah dit à propos de toi, si celui-ci est du nombre des rapprochés d'Allah, il aura alors le repos, de la grâce et un jardin de délices. Et si il fait partie des gens du côté droit, il sera accueilli par ces mots, salut à toi de la part des gens du côté droit. Et s'il est de ceux qui avaient traité de mensonge la résurrection, et s'il est de ceux qui s'étaient égarés, alors il sera installé dans une eau bouillante et il brûlera dans la fournaise. Cela est une vérité certaine. Nous demandons à Allah, mes frères, nous demandons à Allah le Très-Haut, qu'il nous place parmi ses rapprochés, qui auront le repos, la grâce et les jardins de délices. Mes frères dans la foi, le prophète de l'islam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a montré de manière très très claire et très très détaillée tous les événements qui surviennent après la mort dans la tombe. Le compagnon Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu raconte: nous sommes sortis vers Al-Baqi'a. Al-Baqi'a, c'est le cimetière principal de Médine où sont enterrés la plupart des sahabas. Nous sommes sortis vers Al-Baqi'a à l'occasion d'un enterrement en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque nous arrivâmes, la tombe n'était pas encore creusée. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'assit et nous nous assîmes autour de lui. Nous étions tellement concentrés et tellement calmes que c'était comme s'il y avait des oiseaux sur nos têtes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un bâton dans sa main qu'il utilisait pour gratter la terre. Il leva alors la tête et dit: demandez la protection d'Allah contre le châtiment de la tombe. Demandez la protection d'Allah contre le châtiment de la tombe. Demandez la protection d'Allah contre le châtiment de la tombe. Il dit cela trois fois. Puis il dit: le serviteur croyant, le musulman pieux, le serviteur croyant dans le hadith, lorsqu'il quitte ce monde pour l'au-delà, des anges au visage resplendissant descendent du ciel. Leur visage est tellement resplendissant qu'il est comparable à un soleil. Ils apportent avec eux un linceul et du parfum. Le linceul et le parfum proviennent tous les deux du paradis. Ces anges s'asseyent avec le mort et les anges sont alors tellement nombreux qu'il y en a partout où porte le regard. Puis vient l'ange de la mort, Malak al-Maut, et il s'assoit auprès de la tête du mort et il dit: « Ô âme pure, sors pour jouir du pardon et de l'agrément d'Allah. » Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ajoute: « L'âme s'écoule alors et sort aussi facilement qu'une goutte qui s'échappe de la bouche d'une carafe. L'ange de la mort saisit cette âme, mais dès qu'il l'a prise, les autres anges présents s'en saisissent tout de suite. Ils la portent à leur tour et la posent dans le linceul et la parfument. Émane alors d'elle un parfum comparable à la meilleure fragrance de musc qui puisse être trouvée sur la terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue en disant: les anges montent alors en emportant cette âme. À chaque fois qu'ils passent près d'un autre groupe d'anges, les membres de ce groupe disent: quelle est donc cette âme pure? Ils répondent alors: il s'agit d'un tel, le fils d'un tel. Et ils la nomment en citant les plus beaux noms que le défunt avait dans la vie d'ici-bas. Les anges arrivent avec cette âme au ciel le plus proche. Ils demandent la permission d'entrer et la permission leur est immédiatement accordée. L'accueillent alors les anges qui vont la conduire au ciel suivant, etc. jusqu'à ce qu'ils parviennent au septième ciel, mes frères. C'est alors que Allah le Très-Haut, Allah subhanahu wa ta'ala dira: consignez les écritures de mon serviteur dans le Illiyin. Les écritures, c'est-à-dire ses actions de ce bas monde, écrivez-les dans le livre cacheté réservé aux rapprochés d'Allah, ce livre qui est celui des bons serviteurs. Et ramenez-le à la terre, parce que c'est d'elle que je les ai créés, et c'est vers elle que je les retourne, et c'est d'elle que je les retirerai une nouvelle fois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue le récit en disant: son âme est alors ramenée dans son corps, deux anges viennent, ils le font asseoir et lui demandent: quel est ton Seigneur? Il répond: mon Seigneur est Allah. Il lui demande ensuite: quelle est ta religion? Il répond, ma religion est l'islam. Et il le questionne encore, qui est cet homme qui a été envoyé vers vous? Et il répond, il s'agit du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui demande enfin, et comment es-tu au courant de tout ce que tu affirmes? Il répond, j'ai lu le livre d'Allah, j'y ai cru et j'ai attesté de sa véracité. Un appel est alors lancé du ciel, et l'appel dit, mon serviteur a dit vrai. Tapissez donc le paradis pour lui dans sa tombe, habillez-le de vêtements du paradis et ouvrez-lui une porte donnant sur le paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue en disant, lui parviennent alors la fraîcheur et le parfum du paradis, et sa tombe est élargie partout jusqu'où porte le regard. Le prophète ajoute sallallahu alayhi wa sallam, et un homme au beau visage, bien habillé et parfumé, vient auprès de lui et lui dit, prépare-toi à recevoir la bonne nouvelle, une nouvelle qui va te réjouir. Voici le jour qui t'avait été promis. Le défunt, le mort, lui dit alors, qui es-tu, toi qui as un visage qui présage du bien? Et il répondra, je suis tes bonnes œuvres, je suis la matérialisation de tes bonnes œuvres. Et le défunt dira alors, ô mon Seigneur, fais vite venir la fin des temps, afin que je puisse rejoindre ma famille et mes biens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue en disant, et le serviteur non-croyant, celui qui n'a pas cru, lorsqu'il quitte ce bas monde pour l'au-delà, des anges au visage noirci descendent du ciel vers lui, avec un linceul et une odeur provenant de l'enfer. Ils s'asseyent avec lui, ils sont tellement nombreux qu'il y en a partout où porte le regard. Puis vient l'ange de la mort, Malak al-Maut, il s'assoit auprès de sa tête et dit, ô âme répugnante, sors vers la colère et le mécontentement d'Allah. Le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, l'âme se répand alors partout dans son corps et il l'arrache comme on arrache une broche de la laine trempée. Il la saisit, mais dès qu'il l'a prise, les autres anges présents ne la laissent pas entre ses mains, même pas un instant. Ils la portent à leur tour et ils la posent dans ce linceul à l'odeur nauséabonde. Émane alors de cette âme une puanteur comparable à la pire pestilence d'un cadavre qui puisse être trouvé sur la terre. Les anges montent alors en l'emportant. À chaque fois qu'ils passent auprès d'un groupe d'anges, les membres de ce groupe disent, quelle est donc cette âme répugnante? Et ils répondent, il s'agit d'un tel, le fils d'un tel. Et ils la nomment en citant les pires noms par lesquels on le désignait dans ce bas monde. Ils arrivent avec cette âme au ciel le plus proche. Ils demandent la permission d'entrer, mais celle-ci leur est refusée. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam récite alors à ce moment-là le passage suivant du Coran qui dit, les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes et ils n'entreront au paradis que lorsque le chameau passera par le chat de l'aiguille. Et Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue le récit et il dit, Allah le Très-Haut dit alors, consignez les écritures de mon serviteur dans le Sijjin, consignez les actions de ce serviteur dans le livre cacheté réservé aux gens qui y sont éloignés d'Allah, le livre réservé aux serviteurs non-croyants, et ramenez-le à la terre la plus basse. Son âme est alors jetée. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam récite un autre passage du Coran. Car quiconque associe à Allah, c'est comme s'il tombait du haut du ciel et que les oiseaux le happaient ou que le vent le précipitait dans un abîme très profond. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue le récit. L'âme de ce non-croyant est alors ramenée à son corps et deux anges viennent et lui demandent, « Qui est ton Seigneur ?» Et il répond, « Ah, je ne sais pas. » Les anges lui demandent alors, « Quelle est ta religion ?» Et il répond, « Ah, je ne sais pas. » Et il le questionne encore, « Quel est cet homme qui a été envoyé vers vous ?» Et il répond, « Ah, je ne sais pas. » Un appel est alors lancé du ciel. Un appel est alors lancé du ciel, mon serviteur a menti, tapissez donc l'enfer pour lui et ouvrez-lui une porte vers le feu. Lui parviennent alors les effets de la chaleur de l'enfer, ainsi que son vent brûlant. Sa tombe se rétrécit sur lui, au point où ses côtes se retrouvent emboîtées les unes dans les autres. Un visage laid, un homme au visage laid, mal vêtu et à l'odeur répugnante, vient auprès de lui et lui dit « Prépare-toi à recevoir une nouvelle qui va te déplaire. Voici le jour qui t'avait été promis. » Et le mort lui dira alors « Qui es-tu ? Ton visage est celui de quelqu'un qui apporte le mal. » Il répondra « Je suis tes mauvaises actions. Je suis la matérialisation de tes mauvaises actions. » Le mort dira alors « Ô mon Seigneur, ne fais pas venir la fin des temps. » Ceci afin qu'il ne soit pas jugé définitivement et qu'il n'ait pas à supporter des tourments encore plus terribles. Ce récit, mes frères, a été rapporté par l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah. Dans un autre hadith, le compagnon Anas ibn Malik raconte également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Quand un fidèle serviteur, un croyant, est déposé dans sa tombe et que ses compagnons s'en vont et qu'il entend encore le bruit de leurs pas, deux anges se présentent à lui. Ils le questionnent, comme cela est décrit dans le hadith que nous venons de citer. Puis ils lui disent « Regarde l'endroit qui t'était réservé dans l'enfer. Allah te l'a remplacé par un endroit au paradis. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Il voit alors les deux endroits. » Mes frères, mes sœurs, redoutez Allah, craignez Allah, préparez-vous pour cette étape grandiose que sera la tombe. Demandez au Seigneur de vous protéger des supplices de la tombe. Et je demande à Allah le Très-Haut que vos tombes ainsi que la mienne soient un jardin parmi les jardins du paradis. Allah nous dit « Ô vous les croyants, redoutez Allah comme il mérite d'être redouté et ne mourrez qu'en pleine soumission. » Sachez, mes frères, que vous ne resterez dans cette vie qu'un moment, un court instant qui va vite nous emmener tous vers l'au-delà. Et chaque jour qui passe pour l'homme est décompté de son temps de vie, jusqu'à ce qu'il vive le temps que Allah a voulu qu'il vive. Et nul ne connaît le jour de la fin de sa vie. Alors, si tu es en vie le matin, n'attends pas le soir. Si tu es en vie le soir, n'attends pas le matin. Profite des périodes de bonne santé pour combler les périodes de maladie. Et profite de ta vie avant ta mort. Mes frères, mes sœurs, le souffle de la vie s'arrêtera. Quoi qu'il en soit, et la période de la vie terrestre n'est que très courte, mais Allah a comblé cette communauté par d'immenses bienfaits. Et celui qui fait une bonne action, Allah le récompensera, comme s'il avait accompli de 10 bonnes actions jusqu'à 700 bonnes actions, et bien plus encore. Alors, craignez Allah, redoutez Allah, serviteur d'Allah. Remplissez votre temps dans l'obéissance de votre Seigneur. La vie est une période courte et éphémère, mais ô combien bénie si elle est passée au service d'Allah dans les actes que le Seigneur accepte et agrée. L'homme intelligent est celui qui passe son temps à vouer son culte à l'unique, à Allah le Créateur, dans l'intention de se rapprocher de lui. Il prononce le nom d'Allah avant de manger. Il loue Allah après avoir mangé. Et par cela, il obtient la satisfaction d'Allah, comme cela est décrit par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans la parole suivante. Le prophète nous dit « Allah accorde sa satisfaction à quelqu'un pour la seule raison qu'il remercie Allah après avoir mangé ou bu quelque chose. » Quant aux distraits, ils négligent toutes ces choses. Ils mangent et boivent comme mangent et boivent les animaux. Alors, redoutez Allah, serviteur d'Allah. Ayez une intention pure et sincère pour Allah dans toutes vos paroles et dans tous vos actes. Que votre intention soit de vous rapprocher du Créateur le Très-Haut. Et si vous agissez de la sorte, vous ferez partie des gens que Allah décrit dans le Coran de la manière suivante. Allah nous dit, en vérité, dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les gens doués d'intelligence qui, debout, assis ou couchés sur leur côté, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre. Cela, mes frères, invoque Allah dans toutes les situations, car il s'applique à faire en sorte que tout ce qu'ils disent ou tout ce qu'ils font soit pour se rapprocher de Allah le Très-Haut. C'est ainsi que leur vie se retrouve entièrement dévouée au Créateur. Quant à celui qui oublie Allah, il passe à côté d'une multitude de bienfaits. Il se peut que son adoration ne soit qu'une habitude ou un héritage reçu de ses parents et non un moyen de se rapprocher de son Seigneur. Il y a une grande différence, mes frères, entre la première catégorie et la deuxième. Je demande à Allah, le Très-Haut, qu'il fasse de vous et de moi-même des gens qui dépensent leur temps dans son obéissance et qui ont comme but d'être les rapprochés d'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.